9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Tout a été dit depuis deux jours sur Elisabeth II, sauf qu'elle était très drôle. Stephen Clark, connu pour son humour so british, va nous raconter quelques-unes de ses meilleures blagues. Je recevrai ensuite Clémence Fourton, c'est l'une de nos meilleures spécialistes du Royaume-Uni. Elle va nous brosser un tableau de cette nation qui a désormais un roi, Charles III, et une première ministre, Liz Truss. Et l'on terminera l'émission avec Simon Liberati, dont le nouveau roman Performance nous ramène dans l'Angleterre des Rolling Stones à la fin des années 60.
Europe 1.
Stephen Clark, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit beaucoup de livres très drôles sur les Français, que ce soit A Year in the Mer, de God Save les Françaises ou Comment les Français ont gagné la bataille de Waterloo, mais vous êtes également l'auteur d'Elisabeth II ou l'humour souverain, qui était paru chez Albin Michel en 2018. On la voit comme quelqu'un d'assez austère, enfermé dans le protocole. La série The Crown a renforcé cette image, hein. Mais elle était très drôle, Elisabeth II, à sa manière.
Oui, oui.
Hein.
Oui, c'est vrai. Et en fait, l'histoire de mon livre, c'est que moi, l'éditeur Albin Michel m'a demandé d'écrire un livre sur la reine avec l'idée qu'elle va bientôt mourir. Et eux ont dit, on veut un livre qui se moque de la reine et de la famille Miruel. Et j'ai dit, mais je ne pense pas que les Français aient envie de se moquer de la reine. Et derrière, la reine elle-même, elle se moque d'elle-même. C'est très anglais, ça. Et elle a un grand sens de l'humour. Donc, je préfère faire quelque chose de positif qui montre à quel point la reine a vraiment le sens très anglais du décalage entre son rôle symbolique et sa petite personne, parce que c'est une dame très petite. Et j'ai trouvé plein d'anecdotes où elle comprend ce décalage.
Pour les Français, nous, on a beaucoup glosé sur sa façon de s'habiller, hein, dans des couleurs criardes, avec des bibis hallucinants sur la tête. C'était de l'humour, à votre avis ?
Pas seulement, non, c'était sérieux aussi. Une fois, elle a dit « si je portais du beige, personne ne me verrait ». Mais et là, c'était un peu de l'humour parce qu'elle est très petite. Et aussi, elle a dit « I have to be seen to be believed ».
Il faut qu'on me voie pour me croire.
Oui, c'est ça. Donc, elle choisit ses couleurs qui n'existent nulle part ailleurs. On a inventé une gamme de couleurs que pour elle, pour que personne n'ait la même couleur, que pour qu'elle soit toujours unique à chaque occasion. Et d'ailleurs, les Anglais ont beaucoup parié sur quelle sera la couleur de la prochaine tenue de la reine. C'est devenu quelque chose de très amusant.
Il faut dire qu'en Angleterre, on peut parier sur tout.
Et, oui, ça c'est vrai.
Quand elle a lu le discours du gouvernement annonçant le Brexit devant le Parlement, ça a été l'occasion d'une de ses meilleures blagues. Hein. Vous le racontez dans le livre.
Oui, c'est ça. Une de ses meilleures blagues les plus subtiles. Ça veut dire que quand elle lit un discours pour ouvrir le Parlement, ce n'est absolument pas elle qui l'écrit, c'est le gouvernement qui écrit le discours. Donc, elle a été convoquée pour lire l'annonce du Brexit. Alors, on ne connaît pas les opinions publiques de la reine, mais on sent que quelqu'un comme elle, qui a vraiment le sens de l'international, a dû être contre. Donc, pour lire ce discours, elle s'est pointée au Parlement en portant un chapeau bleu avec des petites fleurs jaunes. Elle portait sur la tête
le drapeau de l'Union européenne.
Mais c'était tellement subtil, aucun commentaire, juste me voilà. Mais ce n'est pas la seule fois qu'elle a fait ça. Quand elle a été obligée de recevoir Donald Trump à Londres, on pense qu'elle n'était pas vraiment pour. Et elle l'a rencontré deux fois. Et une fois, elle a porté une broche qui avait été offerte par la famille Obama, le couple Obama. Et une autre fois, elle a porté une broche qu'elle portait lors de la mort de son père. Je veux dire, elle utilisait des petits symboles comme ça avec un brin d'humour, mais vraiment assez
acide. Pour dire
acide.
Qu'elle était triste, au fond.
Oui, c'est ça, triste de rencontrer ce type. Oui, c'est ça, mais très, très subtil.
Constitutionnellement, elle n'a pas le droit d'émettre d'opinion personnelle, hein, une règle que Charles a toujours eu du mal à respecter, lui. Mais ça ne l'empêchait pas d'exprimer un humour, au fond, qui n'appartenait qu'à elle. Par exemple, lors de la visite du président de la République française, Nicolas Sarkozy, en 2018. Oui. Là, c'est un vrai festival.
Hein. Là, c'était un peu le festival des blagues. On sent derrière une sorte d'humour vraiment taquin. Par exemple, je ne sais pas si c'était exprès, mais quand Nicolas Sarkozy a été accueilli à Londres, ils ont envoyé un carrosse avec des chevaux. Et l'un des chevaux s'appelait Azincourt et l'autre s'appelait Zut alors. Alors
Azincourt, il faut le rappeler, grande défaite française face aux archers anglais.
Voilà. Et après, on a fait la visite avec le président Sarkozy du château de Windsor en prenant un grand moment à admirer la salle Waterloo. avec des immenses tableaux de cette bataille que Napoléon a perdue.
Avec des portraits de Wellington et Blücher.
Oui, hein. C'est ça. Et en plus, la salle de banquet, il fallait passer par la salle de Waterloo pour y accéder. Et dernier détail, lors de ce banquet, la reine a dit au président Sarkozy que justement, tout allait être servi sur un service en porcelaine de Sèvres que la famille royale anglaise a acheté à très bas prix après la Révolution, quand la France vidait les palais royaux. Donc, en fait,
vous voulez dire que Nicolas Sarkozy mangeait dans la vaisselle de Louis XVI et de Marie-Antoinette?
Exactement, il mangeait dans en fait, ce qui aurait dû être sa vaisselle à lui.
Cela dit, Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien, avait écourté son séjour.
Exactement.
Est-ce que c'était la faute de la reine?
Peut-être, parce que Nicolas Sarkozy a donné un discours en disant quel honneur d'être reçu au château de Windsor, mais en même temps, il a refusé sa deuxième nuit de bed and breakfast. Alors ça, vraiment, ça se faisait pas. Mais on sent que peut-être qu'il a senti un peu l'esprit taquin de la reine.
L'humour d'Elisabeth II ne s'exerçait pas seulement aux dépens de la France. Hein, et on l'a vu, il peut être très subtil. En 1970, elle est en voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, dont elle était la souveraine. Hein, mais deux pays qui étaient à ce moment-là tentés d'en finir avec la monarchie. Hein.
Ouais.
Et elle voulait prendre un main de foule. Ses conseillers essayaient de l'en dissuader. C'est là qu'elle leur a dit « Il faut me voir pour me croire
». C'est
une phrase que je trouve formidable.
Oui, oui. Elle était consciente qu'elle, c'était une petite dame qui serait invisible dans une foule, mais qui représentait toute sa nation. Et non seulement sa famille, mais toute la Grande-Bretagne.
Et l'Empire.
Et à une époque, l'Empire, et après le Commonwealth. Donc, il fallait... Elle assumait ce rôle qu'elle trouvait... Quelque part, elle aurait pu être existentialiste française. Quelque part, elle voyait un peu l'absurdité de cette situation. Et ça lui donnait ce sens de l'humour un peu contre elle-même. Elle ne fait aucune blague contre la monarchie, mais elle faisait des blagues contre elle-même.
Bah, une blague contre elle-même formidable. On va laisser passer une petite parenthèse et vous allez nous la raconter, Stéphane. C'est à Balmoral quand elle reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Ah oui, oui.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Stephen Clark, l'auteur d'Elisabeth II ou l'humour souverain. On rend hommage à Elisabeth II, mais sous l'angle de l'humour. Ce serait dommage de ne pas refeuilleter ces pages à cette occasion. En 1998, je l'annonçais il y a un instant, elle reçoit à Balmoral le prince héritier d'Arabie Saoudite, un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire une voiture. Et qu'est-ce qu'elle fait?
Oui, effectivement. La reine adore... visiter les terres autour de Balmoral, son château en Écosse.
Où elle est décédée d'ailleurs.
Oui, ces terres sont énormes. Et elle adorait visiter en une vieille Land Rover qu'elle conduisait elle-même. Et donc, elle invite à ce moment-là tout cet entourage saoudien à faire la visite avec elle. Et elle prend le volant. Donc ça, déjà, c'est un peu un geste provoque. Une femme qui prend le volant devant ces gens. Et elle... fait une visite de ces terres plus vite que jamais, avec quelques hommes qui étaient dans la voiture qui suppliaient à travers un traducteur qu'elle ralentisse, mais elle n'a jamais ralenti. Elle leur a vraiment donné la visite un peu terrifiante de ces terres, en leur montrant que oui, une femme peut conduire vite. Et encore une fois, elle n'a pas fait de commentaires. Elle n'a pas dit « Ah, chez vous, vous devriez peut-être donner le permis de conduire aux femmes ». Elle a juste fait son petit geste, sa petite blague, mais avec un fond sérieux quand même. Mais c'était ça la subtilité de son humour, en fait.
Mais cela dit, Elisabeth II avait-elle le permis de conduire?
C'est pas sûr. Non, je ne pense pas, parce qu'elle n'avait aucun papier d'identité.
Donc, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Elle n'avait pas le permis.
Une fois, elle était en visite d'État aux États-Unis et pendant quelques moments, une douanière lui a refusé l'entrée aux États-Unis parce que cette douanière exigeait le passeport. Et on lui a dit, mais elle n'a pas de passeport.
C'est vrai, elle n'avait pas de passeport.
Et il fallait téléphoner à Washington pour qu'elle passe.
Et elle a fini quand même par passer la frontière, comme elle a passé la frontière d'à peu près tous les États
du monde,
hein,
oui.
Puisqu'elle a eu le temps de tous les visiter. Elle avait une passion pour les chevaux. Juste avant son couronnement, on lui avait demandé si elle était nerveuse. Elle avait d'ailleurs répondu, oui, la course commence à 4 heures.
Oui, c'est ça. On voit beaucoup de photos de la reine et de films de la reine souriante et rigolante. Et vraiment, elle était au plus souriante quand un de ses chevaux gagnait une course. Mais elle n'avait pas le droit de parier. Donc, tout ce qu'elle faisait, c'était des petits paris dans le groupe qui observaient. Chacun mettait une livre dans la cagnotte. Et donc, elle était super contente parfois de gagner 11 livres.
Mais elle n'avait pas le droit de parier comme tout le monde. Hein.
Oui, c'est ça. Non. Mais la seule Anglaise qui n'avait pas le droit de parier.
Et voilà. Oui, c'est ça, d'être la reine. Ouais. Alors, il y a un truc qui est très subtil que vous racontez dans votre livre, Stéphane. Elle avait un étalon baptisé Lord Eldin. Elle l'a accouplé avec une jument nommée Amnesia. Et elle a appelé le poulain Lost Marbles. Alors ça, il faut que vous nous traduisiez.
Ah, c'est très commun. Lost Marbles, ça veut dire fou. He's lost his marbles. Ça veut dire c'est fou. Mais the Elgin Marbles, c'est très célèbre. Au British Museum à Londres, il y a ces fresques grecques en marbre qu'un certain Lord Elgin a sorti de la Grèce. La Grèce demande depuis le retour de ces marbres. Ils n'ont pas eu, donc...
Il les a volés au Parthénon, hein, carrément.
Exactement, oui. Donc, Lost Marbles, le marbre perdu, ou bien la folie. C'était, encore une fois, c'est une blague assez subtile, très difficile à expliquer.
Oui, Lord Eldin, en fait, a volé des marbres en Grèce, au Parthénon, oui. Mais la Grande-Bretagne préfère l'oublier, dont oui. le nom de la jument Amnesia. Voilà. Donc, les marbres sont considérés comme perdus. Lost Marbles, le nom du poulain qui est né.
Oui, mais en même temps, he's lost his marbles, ça veut dire qu'il est devenu fou. Il y a encore une couche.
Oui, encore une couche. Et Charles, alors, Charles III, maintenant, oui. On l'appelle depuis si longtemps le prince Charles, on va avoir du mal à s'y faire, mais est-ce qu'il est drôle? Il lui succède à l'âge de 73 ans, c'est un record, hein, qu'aucun souverain britannique n'était monté sur le trône à un âge aussi avancé. Est-ce que ça a eu le temps de lui polir son humour?
Il va peut-être être un peu moins subtil que la reine, je pense, et il n'aura peut-être pas cet esprit de auto-moquerie que la reine avait, mais on sait très bien, par exemple, que depuis toujours, le prince Charles, le roi Charles maintenant, annonce qu'il adore un groupe d'humoristes des années 50, The Goons, que maintenant c'est très très daté comme humour, mais il a toujours affiché son adoration pour l'humour, mais apparemment il est assez rigolo et très charmant, mais il lui manquera cette espèce de délicieuse habitude qu'avait la reine de se moquer d'elle-même, que tout le monde adorait ça en elle.
Et il l'avait fait une fois, je me souviens, d'un dîner officiel, je ne sais plus dans quel pays, où il avait été obligé de manger d'un animal que l'on ne mange pas normalement sous nos latitudes. Oui. Et on lui avait demandé s'il avait apprécié, et il avait répondu « What I did for England oui. ». Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour l'Angleterre ?
Oui, c'est ça. Je ne connaissais pas cette histoire, oui, oui. Mais oui, il est spirituel. Mais vous savez, vous dites, en France, on parle de l'humour anglais, mais nous, on l'appelle juste l'humour, parce qu'en fait, tout le monde essaie de le faire.
Oui, et puis c'est vous qui l'avez inventé.
Oui, l'humour anglais, oui. Non, mais oui, l'auto-moquerie, oui, c'est, en fait, c'est une grande habitude chez nous.
Elisabeth II ou l'humour souverain, c'était paru chez Albin Michel en 2018. C'est signé Stephen Clark. Merci, Stephen.
Merci.
D'être venu rendre hommage à Elisabeth II sous l'angle de l'humour. On se retrouve dans un instant avec Clémence Fourton. On va parler encore du Royaume-Uni et de tout ce qui a changé au Royaume-Uni depuis ces dernières années et qu'est-ce qui risque de changer encore.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Clémence Fourton.
Bonjour.
Vous enseignez à Sciences Po Lille, vous êtes l'auteur du livre « Le Royaume-Uni, un pays en crise » avec un point d'interrogation, c'est paru dans la collection Idées reçues aux éditions du Cavalier Bleu. Alors première question, la disparition d'Elisabeth II après 70 ans de règne et l'avènement de Charles III, un garçon de 73 ans qui a l'habitude de donner son opinion sur l'environnement, sur les OGM, sur les pesticides, sur l'architecture moderne, ou d'écrire directement au Premier ministre, que ce soit Margaret Thatcher ou Tony Blair, qu'est-ce que ça risque de changer d'après vous ?
Peut-être pas grand-chose, on va voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va incarner l'État et le pays comme le faisait Elisabeth II. Et dans ce sens, ce qu'il était en tant que prince de Galles va changer. Il va devenir, la fonction, si vous voulez, va le changer. Il l'a d'ailleurs laissé entendre hier dans son premier discours en tant que roi, en disant qu'il n'aurait plus le temps, ce qui est un peu un euphémisme, très british d'ailleurs, pour s'occuper de ces causes qui lui sont chères. Et je pense qu'en faisant ça, il a endossé déjà la posture de roi.
Le modèle britannique politique et économique, est-ce qu'il est si singulier, si original qu'on le croit ?
Alors, il l'est, de fait, la conduite à gauche. Enfin, tout visiteur français, belge, suisse, du continent, en Angleterre ou au Royaume-Uni s'en rend compte. Il y a des spécificités culturelles et aussi des spécificités politiques, institutionnelles, comme par exemple le fait qu'il y a une église d'Angleterre, l'église anglicane, qui est une église d'État, qui est un modèle vraiment distinct du modèle de la laïcité tel qu'on connaît, tel qu'on peut le connaître en France.
D'autant plus que le roi ou la reine d'Angleterre en sont le chef.
Absolument. Il y a cette double fonction en tant que chef de l'État et chef de l'Église d'Angleterre et d'Écosse. Donc il y a des réalités, des spécificités. Mais ce qui est surtout intéressant, je pense, c'est la façon dont ces spécificités culturelles, politiques, institutionnelles sont utilisées dans un discours britannique pour se placer comme étant différent à part. Et on l'a beaucoup vu au moment du Brexit. C'était mobilisé par les nationalistes, en fait, notamment anglais, pour justifier le fait qu'il fallait absolument sortir de l'Union européenne parce que les spécificités du Royaume-Uni faisaient qu'il n'était pas soluble, qu'il était impossible pour lui de se fondre dans ce modèle, ce moule, de manière très péjorative, européen.
On dit toujours que la Grande-Bretagne a une constitution non écrite. Alors nous qui ne cessons de réécrire notre constitution, ça nous paraît toujours bizarre. Elle est véritablement non écrite, cette
Elle est véritablement non écrite. Donc c'est un ensemble. Enfin, il y a une partie, il y a des textes, mais c'est un ensemble de textes. Donc par exemple, la Grande Charte de 1215, voilà, qui donnait les premières lignes du rapport entre les lords et le roi, puis d'autres textes postérieurs, et un ensemble de normes, de conventions, qu'on voit à l'œuvre de manière très forte actuellement. Tout ce protocole qui entoure l'accession au trône de Charles III, par exemple, ça fait partie de cette constitution non écrite, mais il est tout à fait anticonstitutionnel de rompre, d'aller à l'encontre de ces codes, même s'ils ne sont pas écrits dans une constitution qui fait 5 ou 18 pages.
C'est bien, quand ce n'est pas écrit, on ne peut pas le changer. Est-ce que la Grande-Bretagne est si ultra-libérale que les Français le pensent ?
Alors, si par ultralibéral on entend l'idée qu'il y a une valorisation de l'individu, de l'esprit d'entreprise et que l'État doit garder une forme de distance vis-à-vis de ses citoyens et de ce qu'ils font, oui. En revanche, il y a une forme d'activité intense de l'État quand même, par exemple, dans la répression des mouvements sociaux. Voilà, donc c'est pas une absence d'État complète, c'est simplement un rapport différent par rapport à la population. Et pendant le Covid, le Royaume-Uni a soutenu activement, économiquement, l'État britannique, les ménages par un dispositif de chômage partiel qui était tout à fait proche de ce qu'on a vu en France et pour plus de 300 milliards de livres. Donc voilà, il y a tout de même une forme, certes résiduelle et certes aussi imprégnée de mécanismes de marché, mais une forme résiduelle d'État social.
Est-ce qu'on y trouve aussi facilement du travail que le croient les migrants, toujours plus nombreux à vouloir traverser la Manche ?
On y trouve du travail souvent, donc le taux de chômage est plus bas qu'en France par exemple, mais le travail est souvent précaire, mal payé. Voilà, il y a si vous voulez, la flexibilité du marché du travail tient ses promesses d'une certaine façon, dans la mesure où de fait c'est plus facile de trouver un emploi. Moi-même j'ai été serveuse en mon temps d'étudiante en Angleterre. En revanche, il n'y a pas de sécurité de l'emploi et donc cela ne veut pas dire, si vous voulez, cette facilité à trouver du travail ne se traduit pas nécessairement par une prospérité économique et il y a beaucoup de travailleurs pauvres, en fait.
Voilà. Au fond, on y trouve plus facilement du travail, mais on peut le garder moins longtemps, mais on reste moins longtemps au chômage parce qu'on retrouve plus vite du travail.
Voilà, sauf que l'idée, c'est de tendre vers un modèle de flexi-sécurité, sauf que la partie sécurité, c'est-à-dire l'État intervient pour vous donner des droits au chômage si vous vous faites licencier, cette partie-là n'est pas du tout aussi développée qu'elle peut être dans des pays nordiques.
Clémence Fourton, le Brexit, c'est une bonne affaire ou une catastrophe pour les Britanniques? Selon que l'on est favorable à l'Union européenne ou défavorable à l'Union européenne, la réponse va changer. Vous, la vôtre, c'est quoi?
Alors, je pense que cela dépend beaucoup de la conjoncture mondiale. C'est-à-dire que si tout va bien, être seul hors de l'Union européenne, ça peut être une force pour le Royaume-Uni. Voilà. En revanche, là, actuellement, par exemple, avec la question des prix du gaz, on voit qu'être hors de l'Union européenne est une faiblesse pour le Royaume-Uni. Ils ne peuvent pas bénéficier des mécanismes de solidarité solidarité qu'il peut y avoir entre les États pour, selon le mix énergétique des États, un peu étaler, répartir la facture, ou la tentative de négociation des prix dans laquelle s'est lancée l'Union européenne, dire on ne payera pas plus que tant et tant pour les hydrocarbures, les matières premières, ça, le Royaume-Uni ne peut pas le faire, n'a pas la force de négociation seule.
On fait une pause, Clémence Fourton, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Clémence Fourton qui a publié « Le Royaume-Uni, un pays en crise » dans la collection « Idées reçues » aux éditions du Cavalier Bleu. Alors le Royaume-Uni n'a pas seulement un nouveau souverain, il a aussi une nouvelle première ministre. C'est d'ailleurs ce sera la dernière fois qu'on a vu Elisabeth II, c'est quand elle a nommé Liz Truss première ministre. Alors elle serait ultra-libérale, Liz Truss, et ce serait un décalcomanie de Margaret Thatcher. Est-ce que c'est le cas?
Alors, en tout cas, elle cultive cette image. On l'a vu prise en photo dans un char pour reproduire une image que Thatcher avait donnée d'elle-même en son temps. Là où elle a effectivement des points communs avec Thatcher, c'est sur les rapports avec les syndicats notamment. Elle a annoncé vouloir durcir encore le droit de grève qui est déjà très réduit, très restrictif au Royaume-Uni par exemple. Elle avait affiché une volonté de mener une politique ultra-libérale et ce sera le cas sur certains points. Par exemple, elle est catégoriquement opposée à un impôt sur les super-profits des entreprises énergétiques par exemple. En revanche, elle a déjà dû faire marche arrière en mettant une limite au prix des factures d'électricité et de gaz, parce que c'était tout simplement, on passait des niveaux qui n'étaient pas supportables pour la population. Là où il y a une différence avec Thatcher, c'est qu'elle va devoir faire ses preuves auprès du Parti conservateur qui n'est pas encore acquis à elle.
Pourquoi, au fond, elle a profité du désarroi dans lequel se trouvait Boris Johnson?
Tout à fait, c'est à la faveur de sa démission qu'elle a... Bon, c'était une fidèle de Johnson puisqu'elle était sa ministre des Affaires étrangères. C'est à la faveur de cette démission qu'elle a pu s'imposer, mais elle n'était pas la favorite des parlementaires conservateurs. Elle a été élue par les membres, les encartés du Parti conservateur.
Par les membres, oui, tout simplement. Oui. Du parti. Alors, on le sait peu en France, mais Liz Truss a survécu à un scandale sexuel au début de sa carrière politique, dans les rangs du Parti conservateur. Elle avait remplacé au pied levé une candidate conservatrice aux législatives, dont on venait de révéler qu'elle entretenait une relation adultère. Or, Liz Truss, au même moment, avait une relation adultère avec le vice-président du Parti conservateur. Ils étaient tous les deux mariés de leur côté. Elle s'est bien gardée de le dire à l'époque. C'est seulement 4 ans plus tard que l'affaire a éclaté dans la presse. Sa carrière aurait pu s'arrêter là. Or, elle a réussi non seulement à maintenir sa candidature, mais elle a été élue. C'était même la première fois qu'elle était élue. Et 2 ans plus tard, elle est entrée au gouvernement et elle n'en est jamais ressortie. Liz Truss, c'est une survivor, survivante, comme on dit.
Oui, ce moment où sa carrière a été mise en péril, en fait, l'a aussi renforcée puisqu'elle a été... la question a été posée aux membres de la circonscription, membres du Parti conservateur de la circonscription où elle devait se présenter. Voulez-vous la conserver comme candidate malgré cette liaison extra-conjugale? Et elle a subi le feu nourri des questions lors d'une réunion publique avec ses militants. Et à l'issue de ce débat, ils ont décidé de l'investir comme candidate. Donc elle a aussi, elle a fait ses preuves. Elle est allée face à eux, elle est passée sous le feu de leurs critiques et elle a fait ses preuves. Mais je pense que là, dans la période actuelle, avec le décès d'Elisabeth II, je pense qu'en fait, ces questions sont devenues totalement accessoires. Et j'ai le sentiment d'une union nationale, y compris autour de Liz Truss, qui va lui bénéficier et qui fera oublier ses erreurs de jeunesse, dont le fait qu'elle avait évoqué, toute jeune étudiante à Oxford, que la monarchie devrait peut-être être abolie.
Oui, elle avait même manifesté enfant avec ses parents contre Margaret Thatcher, hein, au cri de Thatcher out, Thatcher out. Néanmoins, j'imagine que les Anglais, qui sont plus sensibles que nous à ces questions, quand ils la voient, pensent que cette femme a dû jurer à son mari, hein, puisqu'elle est toujours mariée avec son mari, elle a dû lui jurer que leur fille était bien la fille de son mari. Parce que ça se passait à peu près à l'époque où... Je suis sûr que pour les Anglais, ça joue. Ils ont gardé ce souvenir d'elle.
Oui, mais regardez, le nouveau roi est un roi divorcé, remarié, qui a eu lui-même des difficultés, voire on ne sait pas ce qui est exactement la chronologie des faits, mais peut-être qu'il y a eu chevauchement dans ses relations avec Diana.
Ah oui, il y a eu chevauchement.
Voilà,
oui.
Bon, vous êtes plus direct que moi. Donc, si vous voulez, c'est aussi et maintenant, on a vu hier soir déjà une forme de ferveur populaire vis-à-vis de ce nouveau roi. Donc finalement, ce paradoxe est aussi un peu dépassé.
Quand il a épousé Camilla Parker Bowles, qui était déjà sa maîtresse alors qu'il était marié avec la princesse Diana,
c'est vous qui le dites.
Au moment, tout le monde le sait, au moment de la bénédiction nuptiale, retransmise en direct à la télévision, ils ont récité tous les deux un acte de pénitence. Je vous le cite, « Nous reconnaissons et regrettons nos nombreux péchés et turpitudes qu'à travers le temps nous avons commis en pensée, en parole et en acte contre le roi du ciel, provoquant son juste courroux et son indignation envers nous. » Voilà ce qu'ils ont dit à la télévision.
Oui, c'est aussi peut-être un symbole de l'évolution de l'Église d'Angleterre, dont le souverain est le chef, c'est-à-dire l'ordination des femmes est maintenant possible. Voilà, il y a eu des positions, pas par tout le monde, mais progressistes sur la question du mariage gay. Donc c'est peut-être aussi une forme d'évolution culturelle dont font partie Liz Truss et Charles.
Le Royaume-Uni risque de devoir affronter deux problèmes dans les années qui viennent, et cela sans Elisabeth II, c'est l'Irlande du Nord et l'Écosse. Vous pouvez nous les résumer l'un et l'autre ?
Alors, l'Écosse peut-être en premier. Donc, l'Écosse a une tradition de volonté d'indépendance depuis des décennies. Et il y a eu en 2014 ce référendum pour quitter ou non le Royaume-Uni. Finalement, le non l'a emporté. Donc, on pensait cette question réglée. Mais entre-temps, il y a eu le Brexit. Et lors du Brexit, les Écossais ont voté en majorité pour le Remain, pour rester dans l'Union européenne. Donc, cela a donné un nouveau souffle aux indépendantistes écossais qui disent que la sortie de l'Europe leur a été imposée à l'encontre de leur volonté démocratique. Donc la première ministre écossaise Nicola Sturgeon appelle à un nouveau référendum, IndyRef 2, un nouveau référendum d'indépendance qui serait légitimé, selon elle, par le Brexit.
Et l'Irlande du Nord ?
L'Irlande du Nord, situation encore plus compliquée. La République d'Irlande, qui est au sud de l'île d'Irlande, fait toujours partie de l'Union européenne. Bien. L'Irlande du Nord, en revanche, fait partie du Royaume-Uni. Pour respecter le processus de paix et ne pas mettre de frontières entre les deux Irlandes, et pouvoir en même temps avoir un contrôle des marchandises qui circulent entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne via l'île d'Irlande, la solution qui a été trouvée a été de mettre des contrôles douaniers, des contrôles sur les marchandises, sur les animaux, etc., entre la Grande-Bretagne, donc c'est-à-dire Angleterre, Pays de Galles, Écosse, et l'île d'Irlande. Mais cela, ça veut dire traiter l'Irlande du Nord comme une nation différente, la traiter différemment des autres nations composantes du Royaume-Uni. Et cela, c'est inacceptable pour ce qu'on appelle les unionistes d'Irlande du Nord qui veulent être traités comme les autres sujets du Royaume-Uni.
Merci, c'était parfait Clémence Fonton, vous y êtes parvenue. Je renvoie à votre livre Le Royaume-Uni, un pays en crise dans la collection Idées reçues aux éditions du Cavalier Bleu. On fait une pause, on se retrouve avec Simon Liberati et on fonce vers l'Angleterre de la fin des années 60, celle des Rolling Stones.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Simon Liberati, bonjour.
Bonjour.
Dans votre nouveau roman, Performance, vous nous ramenez dans l'Angleterre des Rolling Stones à la fin des années 60. La reine Elisabeth avait 40 ans quand Mick Jagger, Keith Richards ont été arrêtés chez eux pour possession de drogue en compagnie de Marianne Faithfull, la petite amie de Mick Jagger, nue sous une couverture en fourrure. En quoi l'Angleterre était-elle différente à l'époque ?
Elle était différente parce qu'il y avait une espèce un flottement entre quelque chose d'extrêmement rigide qu'on imagine et qui était encore plus fort à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait encore les conventions étaient très présentes. Quand on voit le juge, ça doit toujours être le cas aujourd'hui, qui a condamné Keith Richards à l'époque, il porte toujours la perruque qu'on portait au XVIIIe siècle. Et puis toutes les conventions qu'on connaît anglaises. Et en effet, cette arrivée de la musique rock et des choses extrêmement tout à coup très violentes et de la drogue qui commençait à faire beaucoup parler d'elle. Il y avait un drug Drug Squad qui avait été créé, une brigade spéciale pour la drogue qui poursuivait toutes les pop stars. Donc on était dans une ambiance un peu paranoïaque.
Ça fait plusieurs fois que vos romans nous ramènent à la fin des années 60, que ce soit California Girls, Jane Mansfield 1967 ou Les Démons. Pourquoi toujours cette époque? Vous n'aviez même pas 10 ans.
Ben c'est peut-être pour ça, vous savez, les choses qui fascinent sont souvent les choses qu'on a vues quand on était presque enfant et auxquelles on n'avait pas vraiment accès, mais qui étaient à côté de vous. Et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire, c'est une période qui est juste avant vous. Et celle-là était particulièrement spectaculaire. Moi, j'étais enfant, j'habitais du côté du Flore et je passais devant à l'époque avec papa et maman et je voyais des choses, les gens dans la rue, etc. J'entrevoyais des choses qui étaient tout à fait, qui me paraissaient absolument fascinantes et je pense que ça doit venir de là, tout simplement.
Vous n'êtes pas le seul, en effet, et comme vous le dites dans Performance, l'idée toujours la même, hein, dans toutes les séries consacrées à cette époque, c'est de montrer la fin de l'utopie des années 60.
C'est un poncif journalistique, je vais dire tout simplement, qui date, en effet, qui est la fin de l'ère du Verseau, toutes ces idées qui donnent en général pour date l'année 69. Alors, est-ce que c'est la réalité? Comme toujours, dans le mythe, il y a quelque chose qui part du réel et puis il y a quelque chose qui n'est pas réel. Je pense que le mouvement descendant avait commencé avant. J'en ai parlé dans l'autre livre que j'ai écrit sur la famille Manson. Je pense que ça a commencé vers 67. Mais en effet, c'est une période qui a pris fin, qui n'a jamais pris fin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du manager des Stones, le premier, qui s'appelait Lou Oldman, qui dit que le problème avec les années 60, c'est qu'elles ne se sont pas terminées en 69, mais qu'elles continuent toujours aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on vit dans la répétition permanente on ne bouge pas de ces archétypes, et que ce soit, là, je viens d'écrire un article sur Catherine Deneuve, ou que ce soit les Rolling Stones, ils sont toujours là, et pour certains, pour la plupart, Bardot encore, etc. Et c'est des choses qui sont restées très, très fortes. On ne pensait pas à l'époque que ça allait durer aussi longtemps. Moi, j'aurais jamais imaginé, quand j'ai acheté les disques des Stones, que 50 ans après, je serais encore en train d'en parler.
Alors, Performance, votre roman, c'est l'histoire d'un vieil écrivain engagé pour écrire une mini-série sur les Rolling Stones entre 1967, l'arrestation de Mick Jagger et Keith Richards pour possession de drogue, et 1969, la mort de Brian Jones. Et c'est particulièrement intéressant, votre livre, sur notre manie, justement, de reconstituer les époques du passé, que ce soit dans des séries ou dans des biopics. Hein.
C'est très curieux. Alors, il y a cette obsession de la reconstitution qui, d'ailleurs, donne des choses intéressantes, parce que les gens qui travaillent sur ces séries ou sur ces films, parfois, font un travail formidable. Donc, il y a des choses tout à fait, ils s'intéressent à des détails que les gens de l'époque ignoraient totalement, auxquels on ne faisait pas attention. Donc, il y a un développement, il y a une espèce de culture, de commentaire qui se fait par rapport à ces données qui n'ont pas bougé depuis l'époque. Et il y a aussi parfois quelque chose d'un peu ridicule, c'est le fait de vouloir absolument que les gens ressemblent. Alors, c'est vrai que pour que le spectateur adhère, il faut logiquement qu'il ressemble. Je trouve que c'est un peu forcé et que très souvent, on gagnerait, je ne sais pas, à faire jouer par des enfants japonais les Rolling Stones ou faire des choses qui n'ont pas véritablement trop désir de ressemblance. Sinon, ça devient très vite un peu cliché. Et en plus, on a l'impression que si on met une moustache à l'un, il va ressembler à Hitler. Si on lui met une pipe, ce sera le même qui va ressembler à Sartre. Il y a un truc un peu comme ça qui m'a toujours un peu gêné dans les biopics.
Il y a aussi le fait qu'on va lisser le passé pour ne pas choquer les sensibilités d'aujourd'hui, ou au contraire pour les encourager dans ce qu'elles croient. Il y a quelque chose d'un peu édifiant. Par exemple, on veut absolument que votre héros écrive une scène où Jimi Hendrix reproche à Mick Jagger de s'approprier la culture afro-américaine. Et tous les musiciens noirs dans la série doivent se montrer sympathiques, clairvoyants et politiquement justes. C'est au fond la définition même du politiquement correct à l'américaine.
Oui, et puis c'est aussi une certaine forme de racisme, il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est une sorte de... Jimi Hendrix, pour donner un exemple, a rencontré Marianne Faithfull et Mick Jagger après un concert. Je crois qu'il était défoncé, il était saoul, il s'est montré particulièrement violent et désagréable, comme peuvent se montrer n'importe quel pop star de n'importe quelle couleur dans ces genres de circonstances. Et là, c'est vrai que dans mon histoire, les gars de la série ne veulent surtout pas qu'il ait l'air... qu'il ait l'air agressif ou bourré, mais qu'au contraire, il fasse une leçon d'histoire à son alter ego blanc. Donc voilà, oui, ça, il y a un truc comme ça, il y a une tendance, on peut pas se voler la face, il y a une tendance comme ça en ce moment.
Et de même, on a un gros problème aujourd'hui avec le complotisme, on a beaucoup de mal à accepter, par exemple, l'idée que l'arrestation des Rolling Stones avec de la drogue, ça a pu être le résultat d'un complot, de la police en cheville avec la presse à sensation. Or, à l'époque, ce type de complotisme, c'était une évidence. Tout le monde était complotiste.
Bah, oui, c'est-à-dire qu'en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on consulte un peu les documents de l'époque, il y a des gens qui ont écrit, des Anglais très érudits, qui ont écrit des livres entiers sur cette arrestation, qui est quand même un micro-événement. Hein. Ils n'avaient presque rien sur eux, ça a fait beaucoup de bruit. C'est le journal, en fait, c'est un complot qui unissait à la fois la police, qui voulait donner un exemple contre la drogue, et le journal à scandale News of the World, qui avait essayé de piéger Mick Jagger, qui avait envoyé ses avocats, et donc c'est un coup monté, et ça c'est clair aujourd'hui, entre News of the World et la police des stupes. Donc c'est vrai que ça existe. Après, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de complotisme, on a l'impression qu'on parle de gens... De gens étranges.
De même, il faut absolument que Brian Jones soit une victime. Hein. Victime de la drogue, mais aussi victime de Keith Richards, qui lui a piqué sa petite amie. Victime de Mick Jagger et de Keith Richards, qui lui ont piqué son groupe. Les Rolling Stones, c'est lui qui les avait créés. Et puis en plus, ils ont fini par le virer. Au fond, Brian Jones, dans une série qu'on pourrait faire aujourd'hui sur les Rolling Stones, incarnerait la pureté des années 60, alors que les Rolling Stones vont devenir une énorme machine commerciale, donc corrompue.
Oui, alors ça, c'est vraiment le cliché des clichés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez Brian dans sa vie, c'était une petite brute. Hein. Il a défoncé la tête de toutes ses petites amies. Donc, a priori, il est plutôt du côté de gens qu'aujourd'hui, je ne citerai pas, mais qu'on n'aime pas beaucoup, des chanteurs qui frappent leur moitié. Et en fait, on recompose l'histoire parce qu'on va se dire, voilà, il faut un pur, donc ça sera Brian Jones. Il faut une machine qui se transforme en profit, et ça va être les Stones des années 70. Or, Brian Jones, qu'il a d'original, c'est un bon musicien, mais c'est pas lui qui a fait la principale des compositions des Stones. C'est un mode de vie. Et le mode de vie de Brian Jones, ce qui est très intéressant avec ce groupe, c'est qu'en fait, ce sont les autres qui vont s'accaparer petit à petit sa personnalité. Et finalement, la personnalité de Brian Jones, à travers Anita Pallenberg, va passer sur la personnalité de Keith Richards. Et donc, ça va créer cette espèce de machine androgyne et menaçante qui est les Stones du début des années 70, qui ne sont pas du tout encore la machine Afrique, mais qui sont encore quelque chose d'assez vivant.
Anita Pallenberg, c'était la petite amie de Brian Jones et qui l'a quitté pour Keith Richards, dont elle est devenue la femme et la mère des enfants d'ailleurs. Hein. Au fond, ce que vous racontez très bien dans Performance, c'est que la pop musique à la fin des années 60, c'était beaucoup plus satanique qu'on veut bien le dire. On regarde ça au fond avec des yeux d'enfant de cœur aujourd'hui. Hein.
Oui, parce qu'en fait, on a catégorisé comme dans beaucoup de choses, comme dans la sexualité, etc. Donc il y a le rocker sympathique et révolté, il y a le méchant flic, il y a ça, c'est un peu la vision de... En fait, ces gars étaient des voyous quand même, enfin pas les Stones d'ailleurs, c'était plutôt des enfants de la bourgeoisie, mais se comportaient aujourd'hui par exemple, quand on pense qu'ils sortent d'un concert, je ne sais plus où ça a été, je crois que c'était en Allemagne ou aux États-Unis, ils sortent d'un concert, ils prennent une voiture, il y a les groupies qui montent sur la voiture, ils ne veulent pas des groupies, ils accélèrent, ils font tomber les groupies en faisant des zigzags, ils en écrasent une ou deux et ils s'en vont, un tenant le volant et l'autre appuyant sur l'accélérateur. Je pense qu'un groupe qui ferait ça aujourd'hui serait jeté, voilà, en pâture aux médias, alors qu'en fait, c'était un mode de vie. Il y avait une violence, il y avait un manque de respect humain total. On sortait de la guerre et on était, voilà, c'était l'époque des blousons noirs qui était pas loin et on n'était pas du tout dans ce côté, voilà, politiquement correct qu'on impose aujourd'hui aux chanteurs.
Et aux reconstitutions de la vie des chanteurs qu'on nous assène. Merci Simon Liberati, votre roman s'intitule Performance. Il vient de paraître chez Grasset.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine se termine. On se retrouve demain matin à 9h. Je vous souhaite une bonne journée sur Europe 1. Pierre de Villeneuve prend le relais. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Quel est le programme des grandes voix aujourd'hui?
Eh bien, vous pensiez que nous allions parler que d'un seul sujet. Bon, c'est vrai que ça va nous prendre pas mal de temps. Charles III, la reine, la succession, le Commonwealth, l'économie, le Brexit. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Et puis, quand même, l'art de gouverner par Emmanuel Macron. On s'interroge. C'est passé un peu en sourdine, je vous l'accorde, cette semaine. Mais il y a quand même quelques repères qui font réagir les grandes voix tout de suite.
Bonne émission.
Merci.
C'est bien, je viens juste de...